notre parcours de méditation sur le livre des Actes des Apôtres. Et ce matin, nous allons amorcer le chapitre 9 du livre des Actes des Apôtres. Alors, nous avons chanté des chants très, très profonds là, en première partie. Nous avons écouté des paroles d'encouragement qui nous ont été restituées. Et juste en guise de lien avec ce qui va suivre, j'étais resté sur ce chant qui brise le pouvoir du mal, de la mort. Qui aime d'un amour si puissant, si fort, c'est le roi de gloire. Il est le roi des rois. Qui secoue la terre par un saint tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères, c'est le roi des rois. Qui ramène la paix dans la confusion, change les orphelins en fils et en filles, c'est le roi de gloire. Qui règne sur les peuples dans la vérité, brille comme un soleil de tout son éclat, c'est le roi de gloire. Il y a de cela dans la prédication de ce matin, une prédication qui va être fondé sur ce texte d'Actes chapitre 9. Je lirai les 9 premiers versets qui vont s'afficher peut-être pour vous, mais je vais suivre mon texte. Saul, qui ne pensait qu'à menacer et à tuer les disciples du Seigneur, se rendit chez le grand prêtre et lui demanda des lettres de recommandation pour les synagogues de Damas. Ces lettres l'autorisaient, s'il trouvait là-bas des hommes ou des femmes qui suivaient la voie du Seigneur, à les arrêter et à les amener à Jérusalem. Il se dirigeait donc vers Damas et approchait déjà de cette ville quand soudain, il fut environné d'une lumière éclatante qui venait du ciel. Il tomba à terre et entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Qui es-tu, Seigneur ? Demanda-t-il. La voix reprit, « Je suis, moi, Jésus, que tu persécutes. Mais relève-toi, entre dans la ville, et là, on te dira ce que tu dois faire. » Ses compagnons de voyage restèrent figés sur place, muets de stupeur. Ils entendaient bien la voix, mais ne voyaient personne. Saul se releva de terre, mais il avait beau ouvrir les yeux, il ne voyait plus. Il fallut le prendre par la main pour le conduire à Damas. Il resta aveugle pendant 3 jours et ne mangea ni ne but. Saul de Tarse, de persécuteur à propagateur de l'Évangile, quel itinéraire de vie ! Je ne sais pas si le mot itinéraire évoque le livre de mon frère Gérard, qui partage avec nous son itinéraire de vie, où nous pouvons aussi voir comment le Seigneur l'a guidé. Mais voici un homme, Saul de Tarse, qui va vivre un chamboulement dont nous allons parler ce matin. J'aimerais d'abord, dans un premier point, nous restituer le portrait de cet homme Paul comme un citoyen du monde. L'Écriture, notamment le témoignage des Actes des Apôtres et de la bouche de Paul lui-même, nous dit qu'il est un juif né à Tarse, en Cilicie, la région de la Turquie actuelle. Nous ne savons pas précisément vers quelle époque, mais les spécialistes largement s'accordent pour dire qu'il serait né aux alentours de l'an 7 de notre ère, ce qui ferait de lui un contemporain de Jésus-Christ. Vous savez que Jésus-Christ n'est pas né à l'an 0, mais vraisemblablement vers l'an 4 de notre ère, et donc Paul vers l'an 7, à plus ou moins 3 ans près, ça fait d'eux des contemporains. Jésus était l'aîné de Paul de quelques années seulement. Tarse est une ville cosmopolite, un brassage de populations de différentes cultures, un brassage aussi de populations de différentes religions, et puis surtout une ville carrefour et riche de par les opportunités marchandes qu'elle proposait. Paul est né à Tarse, nous ne savons pas combien d'années il y a passé, mais il a été préparé comme un homme de grande ville à la multiculturalité. Et il y a là un point de contact avec nous, et c'est pour ça que c'est important de voir comment le Seigneur a utilisé Paul à partir de son vécu multiculturel. Nous vivons dans un temps de grande mobilité. Vous savez, il y a encore 50 ans en arrière seulement, on pouvait vivre toute sa vie sans jamais sortir de son village ou de sa commune. Jésus n'a pas quitté la Palestine. Paul a sillonné tout, presque tout le monde entier connu de son époque. Et pour, en cela, nos contemporains ressemblent beaucoup à Paul. Si on devait adapter la vie de Paul aujourd'hui, il faudrait filmer un peu comme dans les BD Martine à la plage, Martine à Londres. Martine. On devrait faire Paul à Paris, Paul à Nîmes, Paul à New York, Paul à Madrid, etc. C'était l'homme des grandes villes. Et qui dit grande ville dit brassage culturel, dit ouverture, dit aussi de nombreuses opportunités. C'est pour ça que j'ai intitulé cette première présentation « Paul, citoyen du monde ». Paul, c'est l'homme de deux cultures. Il est né juif et il le dira lui-même, hébreu, fils d'hébreu, descendant de la tribu de Benjamin. Et d'ailleurs, son nom, Shaoul, si on veut prendre la prononciation hébraïque, évoque le nom du premier roi d'Israël, Saül. Et ils sont d'ailleurs de la même tribu, puisque Saül lui aussi était de la tribu de Benjamin. Et l'apôtre Paul, côté hébraïque, s'appelle Saül, comme on prononce. Mais il est également citoyen romain de naissance, puisqu'il est né dans l'Empire romain à Tarse, par son père, dont on n'a pas beaucoup plus d'informations, et encore moins concernant sa mère, hélas. Paulos, le petit. Paul parlait et maîtrisait l'anglais de son époque, qui était le grec, à perfection. Il a été formé dans des grandes écoles, et il a reçu visiblement une formation de très haut niveau. Parfois, certains pensent que quand on est chrétien, on ne peut pas faire une formation de haut niveau intellectuel. C'est faux. Et je me réjouis de savoir que de plus en plus, parmi les évangéliques qu'on stéréotypait souvent dans les études sociologiques comme venant des classes populaires, pas trop portées sur l'intellectualisme par rapport aux églises réformées, il y avait un peu un regard de condescendance sur les évangéliques, il faut le savoir. Ce regard n'est pas complètement gommé encore aujourd'hui. Mais les études sociologiques sur les religions, je renvoie ici à la dernière cartographie du protestantisme, Sébastien Fatt, vous trouverez ça sur Internet, hein. Du moins si vous vous intéressez à ces questions. La dernière configuration montre quand même une évolution, une montée, on va dire, des échelons sociaux et intellectuels au sein des églises évangéliques. Alors, on a parfois, nous évangéliques, opposé intelligence et foi. On a parfois méprisé le savoir qu'on a opposé à la foi. D'ailleurs, je n'en veux pas à mon frère Jérémy, parce que ce qu'il a dit est juste. Ce n'est pas la science qui conduit à Dieu, c'est vrai. Mais elle a beaucoup de choses à nous éclairer aussi. Vous voyez, c'est la grâce, c'est par grâce que nous sommes sauvés. Nous ne devons pas tomber dans cette opposition complètement radicale de la science et de la foi, bien que dans cette citation, science ici est l'équivalent de connaissance. Et la Bible, c'est vrai, le dit. Le principe de la connaissance, c'est la crainte de l'Éternel. Parce que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Connaissez vos classiques, hein ? C'est bien, on est avec Rabelais là. Être un homme intellectuel a été utilisé par Dieu, et quand nous progresserons dans le livre des Actes des Apôtres, vous verrez comment le Seigneur a utilisé Paul. Il connaissait la rhétorique de son époque, c'était un très très bon orateur. Il maîtrisait les règles de l'art oratoire à perfection. Il connaissait la dialectique, l'art de manipuler les concepts, de discuter, d'argumenter. Il connaissait, les poètes de son temps qu'il cite, il connaissait les philosophies et les différents courants de philosophie qui influençaient la culture de son époque. Il a été préparé à son insu à être l'homme qu'il deviendra au fur et à mesure que nous découvrons le récit. Nous sommes dans un monde avec sa culture, nous sommes dans un monde avec ses influences philosophiques, avec ses influences intellectuelles. Les non-chrétiens écrivent et font la promotion de leur vision du monde sur le terrain intellectuel. Nous devons pouvoir lire ce qu'ils écrivent. Nous devons pouvoir le critiquer intellectuellement avec la même rigueur. Vincent nous a parlé dans son message il y a 15 jours de l'apologétique, une discipline chrétienne très ancienne qui consiste à être formé à défendre son espérance, à être capable de rendre compte de la foi qui est en nous d'une manière pertinente, d'une manière crédible aussi. Bien que ce ne soit que le témoignage puissant de l'Esprit-Saint qui convainc un cœur de péché, de justice et de jugement. Mais il y a également dans l'Église une tentation, lorsqu'on parle d'intellectualisme, c'est que celles et ceux qui me disent souvent, vous savez, pasteur, moi, je n'ai pas de diplôme, hein, je n'ai pas fait d'études, qu'ils se disqualifient. Et je voudrais dire non, non. Vous ne pouvez pas vous disqualifier parce que vous n'avez pas de diplôme. Et le fait de ne pas avoir de diplôme ne veut pas dire qu'on n'a pas un esprit qui est capable d'analyse, de critique, de compréhension. J'aimerais vous dire que l'Esprit de Dieu renouvelle notre intelligence, et même si ce n'est pas un savoir universitaire ou académique, Dieu donne, même à nos frères et sœurs qui n'ont pas eu à faire de grandes études, une sagesse particulièrement souvent éclairée, pratique de la vie avec le Christ et de la vie dans ce monde. En telle sorte que tous dans l'Église, qu'ils soient très intellectuels ou pas du tout, participent au discernement par l'Esprit de Dieu, de ce que Dieu veut pour son Église. On ne peut pas laisser ça comme c'est dans notre monde. Vous savez, aujourd'hui, vous avez une maladie et vous devez voir 56 personnes parce qu'on est dans un monde d'expertise. On a morcelé l'unité anthropologique, l'unité de l'homme, et chacun aujourd'hui se forme dans une spécialité. Et on n'a plus parfois le regard holistique global de la personne et de ses problématiques. Pour le pasteur ou pour le spirituel, on va vous renvoyer au prêtre, au pasteur, aux gens spirituels. Pour le psychologique, on va vous renvoyer au psychologue. Pour les troubles de la santé mentale, au psychiatre. Pour les bobos, vous allez voir Vincent, notre kinostéo. Pour ceci, vous allez voir le généraliste, et ainsi de suite. Nous sommes dans un monde où on essaye tout simplement de parler à partir de son expertise et où on disqualifie trop vite souvent ceux qui n'ont pas d'expertise. Mais je veux dire ce matin que les deux sont complémentaires. Et Paul a été formé pour pouvoir apporter sa contribution, sa complémentarité le moment venu quand le Seigneur l'a visité. Homme citoyen du monde, homme de deux cultures, il va pouvoir être l'homme de la situation le moment venu pour apporter l'évangile jusqu'aux extrémités de l'Empire de Rome. Il fallait un homme comme Paul qui était préparé à son insu. Et il y a encore aujourd'hui des hommes et des femmes que Dieu donne à son Église, une, à son Église au sens large, qui sont équipés et reçoivent plus que d'autres le don d'être capables d'influencer les nations et les cultures. Tous n'ont pas été préparés de la même manière. L'apôtre Paul est aussi un homme qui, c'est le deuxième point, a reçu une formation religieuse de prestige. Il avait, à n'en pas douter, une érudition dans son domaine d'expertise. Il connaissait, il maîtrisait la loi de Moïse. Il a compté parmi les élèves de Gamaliel, qui était alors le rabbi le plus réputé des années 30. Et d'ailleurs, il va se présenter aux Philippiens en faisant valoir son pedigree. Je ne sais pas si le verset de Philippiens chapitre 3 va pouvoir s'afficher, mais il dit dans ce passage, si vous êtes avec moi à la vidéo projection, merci, « J'ai été circoncis le huitième jour », on a l'impression qu'il donne ici son CV, pour ceux qui voudraient remettre en question sa judaïté, son origine juive, non, j'ai été circoncis le huitième jour. Je suis israélite de naissance, de la tribu de Benjamin, tribu prestigieuse, royale, de pur sang. On ne parle pas le langage des chevaux ici, hein, mais de pur sang hébreu. Pour ce qui concerne le respect de la loi, c'est-à-dire quant à son rapport aux Écritures, à la loi de Moïse, je faisais partie des pharisiens, le parti le plus rigoriste de son temps. Quant à mon zèle, il m'a conduit à persécuter l'Église et face aux exigences de la loi, j'étais sans reproche. Waouh ! On a peine à croire qu'on peut être sans reproche face aux exigences de la loi de Moïse. Ça me fait penser au jeune homme riche qui vient voir Jésus et dit « Mais que dois-je faire pour hériter le royaume ?» Je lui ai dit « Mais qu'est-ce qui est écrit dans la loi ?» Il récite la loi, Jésus lui a dit « Tu as bon, va et fais ça. » Mais il dit « Mais j'ai déjà fait ça et je ne fais que ça toute ma vie. » Et Jésus l'admire et lui dit « Bon, va et vends tout tes biens. Après tu viens, suis-moi. » Et là il s'éteint l'homme, il s'éteint, il s'enferme. Il repart. Paul était de ces hommes qui avaient reçu une éducation au cœur de laquelle restait la loi. Il y a des sondages récents qui parlent des évangéliques et d'une sorte, entre guillemets, de catholicisation du monde évangélique. Et on observe un concept nouveau. C'est que dans des sondages, certains sondages donnent la parole et il y a 30% des répondants qui se disent évangéliques, mais évangéliques non pratiquants. Waouh ! C'est ce genre de footballeurs qui ne sont plus pratiquants. Footballeurs, godasses, chaussures et tout, mais je ne joue pas. Mais j'ai l'équipement. Et un autre fait qui nous alerte, pour ceux qui suivent un peu les évolutions et les études qui sont publiées, le nombre d'évangéliques qui maintiennent la lecture quotidienne de l'Écriture s'érode grandement. De moins en moins, ou en tout cas de plus en plus, beaucoup abandonnent la centralité de la parole de Dieu dans leur piété, dans leur vie quotidienne. Il y a un phénomène extraordinaire qui s'appelle l'expresso biblique. C'est-à-dire que nous réduisons de plus en plus notre rapport à l'Écriture au verset du jour, à la pensée du jour. Nous avons un rapport homéopathique à l'Écriture. Plus c'est petit, plus on croit que c'est puissant. C'est vrai que c'est un peu suré, mais je voudrais vraiment, non pas nous culpabiliser, mais nous challenger par l'exemple même de quelqu'un qui n'était pas encore converti, mais qui dit que la parole de Dieu était chère à son cœur, parce que la Torah n'est rien d'autre que la parole de Dieu, et qu'il la méditait nuit et jour, et qu'il la mettait en pratique, et qu'il était excellent dans son observation. Paul n'était pas un homme à faire les choses à moitié. Et d'ailleurs, quand on le retrouve dans notre passage, il est tellement zélé qu'il a décidé de poursuivre ces gens qui disent suivre la voie du Seigneur. Alors cette voie lui semble tellement étroite et tellement dangereuse que pour Paul, comme pour beaucoup d'intégristes, il ne conçoit pas que la vérité puisse être ailleurs ou différente. Et alors, pour prendre des galons, semble-t-il, auprès du Sanhédrin, Vincent nous en a parlé là aussi il y a 15 jours, c'est-à-dire la haute autorité religieuse qui régulait les affaires religieuses, et Rome ne s'en mêlait pas, principe de séparation en quelque sorte de pouvoir, même si c'est Rome qui régnait, ils étaient très tolérants sur les affaires religieuses. Et Paul va aller chercher, fort de sa prestigieuse formation à Jérusalem, parce que sa formation religieuse, je dois le préciser, ce n'est pas à Tarse, c'est à Jérusalem. Donc il a passé sa toute petite enfance à Tarse, mais il est arrivé à Jérusalem suffisamment, peut-être à l'âge de 10 ans, on ne nous dit pas. Et là, il a été enseigné au pied de Gamaliel. Vous voyez, ne méprisons pas les enseignements, ne méprisons pas les instituts bibliques, ne méprisons pas les facs de théologie. Gamaliel, c'était en quelque sorte la faculté de théologie de Paul. Il est enseigné. Il est enseigné, il a pris le temps d'être formé. Valorisons aussi la formation. Fort de sa prestigieuse formation au sein du courant rigoriste des pharisiens, convaincu d'être dans le vrai, son zèle pour observer la Torah et défendre sa vision du judaïsme va le transformer, lui, l'homme d'une culture ouverte, à un intégriste religieux devenu pourfendeur donc des chrétiens. Et c'est d'après Luc, au pied de l'apôtre Paul, que ceux qui avaient lapidé Étienne, vous vous souvenez, avaient déposé leur tunique, question de bien retrousser leurs manches et de prendre des pierres. Et c'est Paul qui disait, non, vous pouvez déposer ça ici, avant de casser sa figure, là. Posez ça à mes pieds. Et c'est lui qui avait, semble-t-il, joué un rôle de premier plan. Et après avoir, en quelque sorte, fait ses preuves d'intégriste, il est donc retourné voir le grand prêtre du Sanhédrin pour lui demander de l'accréditer et de lui donner des lettres de mission. Cette fois-ci, Jérusalem ne suffisait pas, la Judée ne suffisait pas. Il avait pour ambition d'aller débusquer ces chrétiens jusqu'en Syrie. Alors, il se met en chemin. Il y a, semble-t-il, à peu près 250 kilomètres qui séparent Paul de la capitale Damas. Et les commentateurs qui, je ne sais pas sur quoi leurs calculs sont basés, disent, compte tenu des moyens de déplacement assez rudimentaires pour leur époque, il a bien fallu une bonne semaine de marche à pied. Il faut être un bon marcheur quand même, hein, même si 250 kilomètres. Moi, je n'ai pas encore fait Saint-Jacques-de-Compostelle, mais je peux demander à Bastien, hein, je ne sais pas combien de kilomètres tu marches par jour. 30. Et il chose du 47. Hein. Oh, pardon, hein, vous coupez cette partie. Hein. Donc, ça veut dire quand même que moi, je dois faire combien, Bastien? 5. Par heure? Sur la journée? Ah non, il faut plutôt 10 jours à peu près, tu dirais, non? Donc on suppose que Paul était un gros marcheur alors. Si c'est 30 km par jour, à moins que parfois il s'asseyait sur une monture. Mais bon. Merci Bastien pour ton expertise. Voici Paul rendu presque à Damas. Mais sa réputation l'a précédé. Quand on lit la suite du passage, je ne le ferai pas pour des raisons du temps, quand on lit la suite du passage, on sait que ceux de Damas ont attendu dire que Paul arrive. Et vous allez voir ce que vous allez voir. Et ils ont dû se réunir et prier. Et ils sont légitimement dans la crainte et le tremblement. Il y a parmi eux un certain Ananias qui prie le Seigneur. Seigneur, s'il est possible. Alors, c'est pas sa prière, elle n'est pas dans le texte, mais j'essaye un peu ici, là, de. Hein, c'est complètement une conjecture. Hein, donc, ça, ce que je dis là, vous l'enlevez de la prédication, c'est pas. Voilà. Il prie en tout cas. Il doit dire, Seigneur, nous avons peur. Celui qui a tué Étienne, qui a associé sa voix au martyr d'Étienne, nous avons entendu qu'il est maintenant en chemin pour nous rejoindre. Et il a les lettres officielles pour arracher, dit le texte, hommes et femmes, de synagogue en synagogue, de maison en maison, et les ramener à Jérusalem. Dieu du ciel, étends ta main, empêche-le, arrête-le. Ils ont peut-être crié, mais jusque à quand, Seigneur? Ce sont des cris que nous connaissons pour certains. Seigneur, s'il te plaît, ne permets pas que ce malheur arrive. Seigneur, jusque à quand est-ce que je me casserai la figure? Jusque à quand serai-je humilié? Jusque à quand serai-je injustement traité, maltraité, discriminé, méprisé à cause de ton nom? Seigneur, interviens. Et le Seigneur attend pratiquement la dernière étape. Je fais ici une petite allusion à un épisode de ma vie. Je vous ai dit la dernière fois tout le long cheminement pour la naturalisation. Mais j'ai failli rentrer définitivement à mon pays à la fin de mes études de théologie parce que nous étions dans une difficulté incroyable où mon épouse n'arrivait pas à avoir son visa. On avait tout fait. La Fédération protestante, par le président de la Fédération protestante, avait écrit une lettre. À l'époque, c'était le président Claude Batty de l'Union des Églises évangéliques libres. Mon propre parrain, qui est encore aujourd'hui ambassadeur du Cameroun à Genève, était intervenu sur ce dossier. Rien. Impossible. On a tout fait humainement. Rien. Alors j'ai déménagé, j'ai quitté la France et j'ai mis mes affaires dans un conteneur. pour que ça parte en bateau. Et donc, j'étais à Berlin. Et j'étais en train de chercher un billet d'avion. Et donc, j'ai fait une pré-réservation. À l'époque, on pouvait encore pré-réserver sans payer. Je me souviens, c'était un lundi ou quelque chose comme ça. Je devais voyager soit le vendredi, soit le dimanche. Et j'avais tourné définitivement le dos à la France, convaincu que dorénavant, ma place serait ailleurs. On avait prié pendant presque 3 ans pour cela, avant que cela advienne. Et bien que nous soyons mariés, légalement, déclarés, en régularité pour ce qui me concerne, ce visa n'arrivait pas. La Fédération Baptiste de France qui m'avait accompagné, et j'en suis toujours reconnaissant, avait décidé finalement de me laisser retourner au Cameroun où je devais finir ma 2e année de master et j'avais un projet avec Amar Diabala de regretter mes mois pour faire ma thèse de doctorat au Canada. Mais alors, les chrétiens qui avaient prié et on était arrivés au bout de ce qu'on pouvait faire humainement. Vous vous en doutez bien que si aujourd'hui mon épouse est là, c'est que quelque chose a changé entre-temps. À la dernière minute, il y a un appel de l'ambassade de Belgique qui l'appelle en disant « Vous avez votre visa, vous pouvez venir le chercher. » Alors vous dites « Pourquoi la Belgique alors que le dossier était devant la France ?» Ça, c'est encore une autre histoire. Je voudrais juste illustrer ça. Beaucoup de gens ont connu ça. Jusqu'à la dernière minute, le Seigneur peut intervenir. Et ce n'est pas toujours le cas parce qu'il reste souverain. Mais jusqu'à la dernière minute, le Seigneur peut changer une situation. Et c'est ce qu'il va se passer ici pour Ananias et pour les chrétiens de Syrie. Paul est à Damas quand il voit, comme nous l'avons chanté, une lumière resplendissante. Et là, il va vivre ce qu'on appelle en langage un peu théologique, une théophanie, une révélation de Dieu. Il voit une lumière tellement brillante, plus que la clarté du soleil. Et cette lumière, il ne peut pas la fixer, elle est tellement éblouissante qu'il est déstabilisé, il vacille et tombe aveuglé par cette grande lumière. On trouve des éléments qui nous rappellent la révélation de Moïse au Sinaï, avec le buisson ardent. Il y a une lumière éblouissante pour Moïse, c'était un feu qui brûlait, mais qui ne se consumait pas dans le buisson. Et puis, il y a une voix qui se fait entendre. Et cette voix dit celui qui va se révéler. « Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu ? » Et il y a un questionnement sur l'identité de cette voix qu'ils entendent. « Mais qui es-tu ? » C'est la même question que Moïse demande. « Qui es-tu ? » Et dans les deux cas, il y a un recours à un verbe de révélation typique de l'Écriture, « je suis ». Et ici, Jésus va prendre les mêmes verbes, mais en grec. « Ego eimi ». « Je suis moi, Jésus, que tu persécutes ». « Je suis moi, Jésus, que tu persécutes ». Mes amis, et à partir de là, l'apôtre Paul va vivre un retournement. À la fois une illumination et une conversion. Une illumination, littéralement, la lumière éblouissante de Jésus va éclairer les profondeurs de son cœur. Et il va changer de l'intérieur. Mais en même temps, Jésus est en train de préparer par son esprit l'Église pour accueillir cet homme qui inspire la peur et la menace. Il y a des Ananias aujourd'hui capables d'accueillir quelqu'un dont la conversion nous étonne, nous questionne même peut-être. Et Jésus a besoin aussi d'aller parler à un Ananias pour qu'il accueille Paul et prie pour lui et l'aide à s'intégrer dans son église. L'apparition de Jésus à Paul montre 4 choses. Je vais aller rapidement et je conclurai par la situation de la persécution des chrétiens. La première chose que cet événement met en lumière, qui est encourageant pour nous, je l'espère en tout cas du moins, c'est le lien qui unit Jésus à ses disciples. Il n'a pas dit « Paul, Paul, Saul, Saul, pourquoi persécutes-tu des disciples ?» Mais « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il y a là un lien que l'apôtre Paul va comprendre. Et il va dire, il y a là un mystère dans Éphésiens chapitre 5 concernant la relation qui unit l'époux et l'épouse. L'Église, c'est l'épouse du Christ. On ne peut pas gifler l'épouse sans offenser l'époux. On ne peut pas cracher sur la robe de l'épouse sans offenser l'époux. Chaque fois que tu craches sur l'Église, cette fiancée habillée d'une robe de sainteté du Christ, chaque fois que tu la piétines, chaque fois que tu la diffames, chaque fois que tu la craches dessus, ne crois pas que l'Église de Jésus va sans Jésus lui-même. Nous ne pouvons pas séparer, même si les deux ne se confondent pas, la tête et le reste du corps. Jésus est la tête de l'Église. Et le corps dont nous sommes tous membres font partie de cette communion. Et Paul prend l'image du mariage dans Éphésiens 5 en disant, il y a là un mystère. Comment se fait-il que mépriser un frère, c'est mépriser le Christ. Mépriser une sœur, c'est mépriser le Christ. Médire d'un frère, c'est médire sur le Christ. Oui, il y a là un lien que nous devons reconsidérer. Pourquoi me persécutes-tu? Et Seigneur, si ce matin, je devais moi aussi répondre à cette question. Pourquoi? Qu'est-ce qui justifie ton comportement, Paul? De quel droit? De quel droit tu menaces à ce point celle pour qui j'ai donné ma vie, cette bien-aimée pour qui j'ai répandu mon sang? De quel droit la maltraites-tu? Et là, il n'a pas de réponse valable. Il ne peut que rester à genoux, comme Bastien nous l'a lu au texte. Parce qu'un jour, et ce jour est arrivé pour Paul, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Que Jésus-Christ est Seigneur. Si tu souffres comme chrétien, la Bible a une parole de consolation. S'ils ont traité le Christ ainsi, ils te traiteront aussi comme ça. Mais sache que tu n'es pas seul. Si c'est en tant que chrétien, c'est-à-dire si c'est en raison de ta foi que le monde te crache dessus, te rejette, souviens-toi que tu n'es pas seul, que Jésus vit ça avec toi et que cela te console. La deuxième chose, c'est que la manifestation de Jésus à Paul montre de quel côté est l'aveuglement spirituel. Pour Paul, l'aveuglement spirituel était du côté de ceux qui suivaient la voie du Seigneur. Parce que ça sortait de sa compréhension du judaïsme et de son légalisme. Il n'arrivait pas à comprendre que Dieu, qu'on puisse annoncer un salut par grâce, totalement par grâce, et que l'obéissance de la loi ne sauve pas. Mais que c'est seulement la confiance en l'œuvre de la croix, en Jésus-Christ qui nous sauve. Il va le comprendre et il écrira plus tard, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Et cela ne vient pas de vous, afin que personne ne s'en vante, ne s'en glorifie. Il va d'ailleurs piquer une colère sainte quand il écrit aux Galates, en disant, Galates, êtes-vous devenus fous? On pourrait traduire littéralement imbécile. Qui vous a ensorcelé au point de vouloir vous ramener à la circoncision? Vous avez commencé par l'esprit, voulez-vous terminer par la chair? Votre salut n'est pas l'œuvre humaine, c'est l'œuvre de la grâce. C'est la deuxième chose que Paul va apprendre ici, et l'illumination va ouvrir ses yeux sur cette réalité et il va comprendre qu'il était dans la nuit spirituelle, il était dans un aveuglement spirituel. Et dans son aveuglement spirituel, il va vivre une petite mort d'une certaine façon, puisque pendant 3 jours, ça vous parle, 3 jours, il va être dans la nuit. Pendant 3 jours, il ne pourra plus ouvrir ses yeux sur le jour et il est par terre. Ça aussi, c'est une image de la mort. La conversion de Paul est un passage de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Et où est-ce que ses yeux vont s'ouvrir? Où est-ce que ses yeux vont s'ouvrir? Dans l'église. Quand Ananias, ce sont des associations d'idées, hein? Quand Ananias Oh, Saphira et l'autre Ananias était mort. Je voulais surtout vous dire de ne pas les confondre. Pas plus qu'avec le grand prêtre Ananias, ça devient compliqué. Quand Ananias, le bien-aimé frère, peut-être l'un des représentants de l'église de Syrie, va dire, Paul, mon frère, Jésus-Christ t'a appelé à lui pour que tu deviennes témoin de cette résurrection. Et en fait, Paul est passé par une petite résurrection. Mort spirituellement, aveugle spirituellement, il naît au jour nouveau de la grâce de Jésus-Christ. Et il va devenir, c'est le quatrième élément que le texte nous fait découvrir, le lien entre la révélation du Christ à Paul et sa vocation pour les nations. Il a compris le salut par grâce. Il a compris que le ressuscité n'est pas mort, il est vraiment ressuscité. Et il va devenir lui-même témoin de cette résurrection. Et il prêchera la seigneurie totale de Jésus-Christ qui nous sauve par la grâce. Oh, Saul a compris qu'on ne gagne jamais dans son orgueil devant Jésus-Christ. Il a compris la seigneurie totale de Jésus-Christ. Mes amis, je voudrais nous inviter à la prière avec une orientation particulière ce matin. Une prière pour celles et ceux qui, aujourd'hui, sous des formes différentes, vivent la persécution. Cette persécution, elle est suivie par l'association Portes Ouvertes. Et la question de Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu, qui est au centre de ce récit, peut être aussi la question de tous ces lieux où les chrétiens sont persécutés. Portes Ouvertes, en chaque début d'année, nous présente un index de la persécution des chrétiens. Et ici, vous avez l'index de la persécution des chrétiens en 2024. Et nous sommes alertés parce que 365 millions de personnes sont persécutées et discriminées simplement parce qu'elles sont chrétiennes. C'est-à-dire un chrétien sur sept persécuté simplement parce qu'ils sont chrétiens. C'est de loin la première religion la plus persécutée au monde. Et on ne le dit pas assez, notamment dans notre contexte occidental. Et voilà pourquoi, si vous allez sur le site de Portes Ouvertes, il y a des plaidoyers chaque année pour pouvoir le dire. Et voilà pourquoi nous devons nous encourager. Nous, pasteurs, nous avons aussi une responsabilité pour pouvoir le dire à nos députés, le dire à nos maires. Plaider la cause de ces chrétiens dont les droits fondamentaux de la personne sont niés. Parce que dans les droits fondamentaux, dans la charte des droits de l'homme, il y a cette liberté de croire ou de ne pas croire. Il y a cette liberté de s'associer pour rendre son culte. Il y a cette liberté même de changer de religion. Mais la persécution vous dit, vous n'avez pas droit à ça. 365 millions de chrétiens sont persécutés dans 78 pays. Et l'index nous montre, c'est la slide suivante, que cette persécution prend des formes variées, des églises sont brûlées ou détruites. Il y en a eu 14 766 en 2023, donc 10 000 en Asie, le reste dans le reste du monde. Églises détruites, brûlées. Il y a eu 4 998 chrétiens tués. Chrétiens kidnappés, dont 3 000 au Nigeria seulement. 4 125 chrétiens sont en prison, sur des faux procès comme Étienne, ou pour avoir simplement exercé leur liberté de prier. Mes amis, ils payent un prix fort. Un prix fort d'avoir associé leur nom au bon nom de Jésus. Un prix fort d'avoir associé